Derrière chaque grande boîte, il y a un grand produit. Derrière chaque grand produit, il y a des gens talentueux, passionnés et ambitieux.
Oh, that music to my ears.
On les appelle Product Manager, CPO ou Product Leader.
Oh, yes, yes.
Quel que soit leur titre, ils ont tous la même mission. Devenir la clé de voûte de leur entreprise à la croisée du design, du business et de la tech pour créer les futurs produits indispensables de demain.
Well, that's excellent.
Clé de voûte, c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise.
You know what, I like that idea.
Ce podcast est rendu possible par Stellar, un collectif de top CPO qui ont participé au succès de startups comme Zenly, Sunday, Spendesk ou Blablacar.
I'm so happy.
J'ai cofondé ce collectif avec une mission, aider les dirigeants d'entreprises tech à créer les produits qui dominent leurs industries.
Oh, yes, yes.
Retard sur la roadmap, équipe désalignée, produits lents à décoller, ces problèmes, nos CPO les connaissent par cœur. Et ils débarquent à tes côtés pour les résoudre dans des formats rapides, actionnables et clés en main.
Well, that's excellent.
Si tu es dirigeant ou CPO et que tu écoutes ce podcast, c'est qu'on a très certainement des choses à se dire. On se retrouve sur wearestellar.io ou via le lien en description d'épisode.
Oh, yes, yes.
Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Renet sur Clé de voûte. Christophe a toujours navigué dans la tech. À l'âge de 18 ans, il se lance dans le grand bain de l'entrepreneuriat et va lancer successivement deux boîtes qu'il va même revendre, dont la dernière à Doctissimo. Après 5 ans à créer des produits de zéro, il devient le VP Product de Best of Media Group avant de rejoindre la direction produit de Perch à New York. Aujourd'hui CPO de Botify, Christophe vient sur Clé de voûte nous parler de son parcours costaud dans la tech. En deuxième partie d'épisode, il nous livre 3 leviers pour créer une équipe produit autonome et impactante avant de nous donner 3 tips pour prendre de la hauteur en tant que PM. Je te laisse quelques secondes pour te concentrer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Christophe, comment ça va ?
Salut Timothée, ça va super bien, merci et toi ?
Ça va très bien, je suis trop content de te recevoir. Alors, je pense que les auditeurs et auditrices vont comprendre que tu es à distance, que le son est un petit peu différent que dans un studio. Toi, tu es basé actuellement à New York, si je ne me trompe pas.
C'est vrai, tout à fait. J'ai vu sur l'Empire State Building actuellement, donc je suis bien placé.
Waouh ! Moi, je suis dans une caverne, il fait nuit, je suis dans le studio en plein hiver, ça fait peur. Tu as bien de la chance d'avoir cette vue-là. Toi, Christophe, tu es donc du coup le CPO de Botify, tu es français, donc tu viens pas des États-Unis à la base, tu vas nous raconter un petit peu tout ça, et tu as une transition vers le produit qui est hyper intéressante. Je serais hyper intéressé justement que tu nous racontes un petit peu comment toi, tu goûtes au produit et quand ça se passe. Je crois que ça se passe très très jeune pour toi.
Ouais, ouais, je suis tombé dans le produit quand j'étais petit, avant même que d'ailleurs ça s'appelle le produit en fait. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au web, au tout début du web, dans les années 97, 98, quand en France, en tout cas, c'était vraiment les débuts. Je faisais mes petits sites web sur des passions à moi. J'ai commencé à tester des jeux vidéo et je mettais des reviews en ligne de ces jeux vidéo. C'était vraiment le tout début. Et quand j'ai rejoint mon école d'ingé, première chose que j'ai faite, c'est me dire... Je pense qu'il y a des choses à faire sur le web. J'ai envie d'écrire plus de trucs. J'ai envie de créer une petite société qui va permettre de partager ma passion pour la tech, ma passion pour les nouvelles technologies. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé une première société avec 2 associés. Et c'est devenu le premier début de l'aventure. Produit, oui, mais en fait, c'était produit et business. Parce qu'en fait, c'était créer le produit, donc en l'occurrence, un site de contenu, des fonctionnalités qui vont avec, créer le business lui-même, comment on gagne un peu d'argent quand même pour payer les factures, même si j'étais étudiant, voilà, ça payait les factures et ça aidait bien. Mais tout ça, c'était aussi d'abord et avant tout une passion. C'était pas, on s'est pas dit, ah super, on lance un business, on va chercher de l'argent et on va faire des millions de dollars. C'était plutôt de se dire comment on crée quelque chose qui nous fait plaisir, dans lequel on s'amuse et en même temps on apprend. Donc ça, c'était mes tout débuts dans le web.
Trop bien. Donc toi, tu commences en entreprenant. Tu montes une première boîte, celle que tu viens d'évoquer à l'instant, qui était donc du coup une boîte plutôt axée autour des contenus. C'était quoi? Des contenus de quoi d'ailleurs?
Ouais, c'était toute la partie PC, donc on avait beaucoup de choses sur les tests de cartes graphiques, cartes mères, processeurs pour les gamers sur PC, tout ce qui était nouvelles technologies. Donc à l'époque, ça me vieillit un petit peu, mais on parlait de lecteurs MP3, hein, voilà.
Donc, ça va, ça va. Moi aussi, je parlais d'MP3 alors que je suis un petit peu plus jeune que toi, je crois.
Voilà, donc ça parlait de tous ces nouveaux produits qui allaient sur le marché.
Donc tu fais cette première boîte, une deuxième que tu revends à Doctissimo. C'était quoi exactement cette deuxième boîte?
Ouais, deuxième boîte, c'était un logiciel de forum de discussion. Donc pour ceux qui connaissent Doctissimo, les forums Doctissimo sont très connus. Les forums Doctissimo tournaient sur une technologie qu'on a créée dans la boîte dans laquelle j'étais, avec là aussi plusieurs associés. On avait développé une technologie qui était très performante pour l'époque en termes d'utilisation de serveurs. Pour ces gros sites-là, justement, la rapidité du forum était importante, les capacités fonctionnelles, évidemment, et faire tourner tout ça sur le moins de machines possible était vraiment un avantage en termes de coût. Il faut se rappeler que c'était avant l'arrivée du cloud, en fait. À cette époque-là, il n'y avait pas encore AWS, Google Cloud, et donc les serveurs étaient physiques. Il fallait aller les acheter chez Dell, les installer dans un data center, et donc tout ça, ça avait des coûts assez importants. Donc on a développé cette technologie qui était utilisée par Doctissimo et par plein d'autres, et après quelques années, effectivement, Doctissimo a souhaité racheter notre petite société et en faire quelque chose de plus important pour eux dans les années qui ont suivi.
Toi, tu as continué chez Doctissimo ou pas du tout?
Non, moi, j'ai pas continué. Un de mes associés est parti et a continué chez eux. Moi, j'ai continué dans l'aventure des médias. Donc, j'ai continué avec Best of Media Group, qui était un groupe média français qui voulait grandir donc sur la tech et qui l'a fait par différents moyens. Donc, à la fois, nous, on a développé nos propres marques, mais on a aussi fait pas mal d'acquisitions. D'abord en Europe, avec une marque qui était assez connue à l'époque pour tous les fans de PC, qui était Tom's Hardware, qui était une marque allemande, même si elle était connue dans le monde entier. Et ensuite, du coup, une expansion internationale, puisque Tom's Hardware étant très connu aussi aux États-Unis, ça nous amène un vrai pied dans la porte sur le marché américain grâce à cette marque-là.
Trop bien.
Donc ça m'a permis de grandir dans la tech sur différentes marques fortes. Et c'est ça qui m'a amené d'ailleurs aux États-Unis 10 ans plus tard, quand Best of Media s'est fait racheter par un groupe américain qui s'appelle Perch. Et ce groupe-là m'a proposé du coup un poste à New York. On n'a pas hésité longtemps avec ma femme.
Ouais, j'allais te demander, t'as pas, enfin, ouais, tout le monde veut pas y aller, tu vois, à New York, mais
c'est clair. Un peu pour nous, c'était une évidence. Donc, on s'est dit super, c'est le bon moment, et ça sera une belle expérience, et on verra où ça nous amène.
Ça fait combien de temps que tu vis là-bas?
Ça va faire 10 ans.
Déjà, ok.
Ouais, ça passe vite.
Pas de projet de retour en France?
Pas encore. Ça viendra peut-être.
Et donc le pivot produit s'est fait là. Donc c'est quand tu rejoins Best of Media Group que finalement ça y est, ton job prend l'intitulé product, quoi.
Oui, c'était chez Best of Media, effectivement. Et encore, au début de Best of Media, je suis même pas sûr que ça s'appelait vraiment Product Management. C'était encore un peu, pour certains, c'était du marketing, pour certains, c'était de la tech. Ils savaient pas trop exactement ce que ça voulait dire. Ce rôle de Product Management, surtout en France à l'époque, il a évolué. Il s'est connu finalement assez tard, je trouve, par rapport à tout ça.
Trop bien. Et donc, aujourd'hui, tu es chez Botify. Tu es l'actuel, voilà, tu diriges le produit là-bas chez Botify. Comment tu qualifierais Botify? C'est quoi exactement?
Ouais, donc Botify, c'est une boîte SaaS, donc c'est du software. On est un software pour les gens du marketing et plus spécifiquement les gens qui font du SEO, c'est la capacité de référencer son site web sur les moteurs de recherche. Donc globalement, pour simplifier, on aide les gros sites web du marché à améliorer leur référencement sur les moteurs de recherche.
Ok. Ah. Tu peux nous donner un peu une vue d'ensemble de ton équipe chez Botify? Tu travailles avec qui concrètement?
Ouais, aujourd'hui mon équipe c'est des product managers, des product designers, et puis on a une personne aussi en charge de la documentation.
Ouais. Combien de personnes en tout, product design, product management?
C'est une douzaine de personnes aujourd'hui sur l'ensemble de l'équipe. Toute l'équipe est basée à Paris, alors que moi-même je suis basé à New York. Donc on va parler un petit peu justement
de chanceux,
comment je gère ça aujourd'hui dans mes équipes et comment on s'organise pour que ça fonctionne.
Ouais. Et c'est une boîte qui est américaine ou française de base, ou montée par des Français?
Bonne question. Ouais, c'est une boîte française à la base, mais qui très vite s'est déployée aux États-Unis et qui depuis un moment maintenant fait 60% de son chiffre aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes à New York chez Botify, même si on a conservé l'équipe engineering, produit sur le marché français.
Ok, donc t'es le seul toi côté engineering et produit à être à New York, mais par contre il y a, j'imagine, un pôle, je sais pas, sales, support, custom success qui est basé à New York.
Tout à fait. Toutes les personnes qui sont en face des clients sont ici. Et on a également le CEO qui est français mais qui est aussi à New York. Et ça nous permet d'être plus proche de nos clients, comme j'évoquais. On travaille avec les plus gros clients du web qui aujourd'hui nous font confiance pour les aider et les accompagner dans leur positionnement sur Google. Et donc c'est important d'être proche d'eux. Et donc ça veut dire d'être ici aux US.
Trop bien. Pas simple d'être une boîte française et de réussir son implantation aux US. Il y a beaucoup, beaucoup de boîtes qui essaient, qui crament beaucoup d'argent en le faisant, en prenant un bureau, etc. Et c'est cool de voir des boîtes qui arrivent, qui parviennent à le faire finalement.
Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, bah, je pense qu'il y a... Il y avait un bon market fit en fait assez tôt pour Botify entre le produit que Botify avait et ce que le marché attendait aux États-Unis et qui n'était pas répondu par des boîtes américaines étonnamment. Et c'est encore vrai d'ailleurs aujourd'hui. Donc il y a des vraies spécificités qu'on a apportées sur ce marché-là et qui font la différence.
C'est une boîte qui fait combien de personnes en tout maintenant ?
Aujourd'hui, c'est 300-350 personnes dans le monde entier. On est présent donc en Europe, bien sûr, mais aussi aux États-Unis et aussi en Asie. Donc, on a des bureaux à Singapour, à Sydney, pour accompagner des clients de façon mondiale.
Peut-être avant qu'on aille sur un terrain un petit peu plus technique et orga, sur ce qu'on vient d'évoquer et ce qui se passe chez Botify pour toi, est-ce que, en revenant un peu sur ton parcours, il y a une compétence particulière ou des compétences particulières que tu as creusées, particulièrement travaillées, qui t'aurait permis, tu vois, d'arriver où tu en es aujourd'hui, quoi.
Comme on l'a évoqué tout à l'heure dans mon parcours, je pense qu'en commençant comme entrepreneur, j'ai eu un début de carrière un peu atypique, hein, quand même, par rapport à beaucoup de PM aujourd'hui. Et assez vite, du coup, après mon expérience entrepreneur, je me suis retrouvé à des postes de management, de VP Product, alors que j'avais finalement, en année d'expérience, j'avais pas mal, mais en termes d'expérience d'équipe, pas grand-chose. Et vraiment, si je regarde maintenant avec beaucoup de recul ma carrière, je me rends compte à quel point, probablement sur mes 10 premières années, j'étais très mauvais en soft skills.
C'est vrai.
C'est pas quelque chose qu'on apprend vraiment à l'école, en fait, hein, pour être honnête. Pas quelque chose que tu sais naturellement quand t'as une petite vingtaine d'années. En tout cas, c'était pas mon cas. Et du coup, je me suis rendu compte plus tard, évidemment, de tout ce que j'avais pu faire qui n'était pas idéal, des petites erreurs à droite à gauche. J'ai la chance aussi de pouvoir redébriefer avec des anciens collègues, anciennes personnes que j'ai managées, avec le recul de se dire, tiens, alors, qu'est-ce que t'as pensé de nos années ensemble? Qu'est-ce que justement tu t'as retenu de tout ça? Et d'avoir des bonnes choses, heureusement, tout ça, mais aussi, justement, du feedback qualitatif intéressant qui m'a permis de pouvoir réfléchir sur moi et sur mon expérience et de me dire, OK, comment je change ça? Qu'est-ce que je dois faire?
T'as rappelé des anciens collègues ? T'as vraiment rappelé ? Ah ouais ?
Ouais. Ouais.
Pour ça, pour pouvoir progresser sur ces sujets de
compétences. Pour ça, c'était parti de. C'était intéressant de reconnecter avec ces personnes-là, mais j'avais vraiment cette question pour moi en tête de se dire qu'est-ce que tu as retenu ? Qu'est-ce que tu as trouvé de bien dans notre relation ? Qu'est-ce que tu as trouvé de moins bien ? Et en fait, des personnes avec qui tu as travaillé pendant longtemps et maintenant tu n'es plus forcément en contact, tu n'as plus de relation managériale, elles vont être normalement beaucoup plus à l'aise pour te dire des choses qu'elles n'auraient pu l'être à l'époque. Donc ça, ça a été super intéressant pour moi.
Tu recommanderais de le faire à toute personne qui souhaiterait progresser sur ses soft skills ? Ça t'a apporté beaucoup, je veux dire ça, ouais.
Et je dirais que je pense que de façon générale, je pense que faire sa propre exit interview quand tu quittes un job, d'aller voir les gens une semaine, deux semaines après, d'aller réinterviewer quelques personnes à qui tu as travaillé, dans ce mode-là, de se dire maintenant, on peut se dire les choses. Dis-moi ce que tu as bien aimé, ce que tu n'as pas bien aimé sur notre relation pour apprendre en fait sur soi. Je pense que c'est très, très intéressant et c'est assez facile à faire au final.
Excellent. Hyper, hyper bon type, tu vois, que je n'avais pas forcément entendu auparavant. Il faut avoir un peu d'humilité quand même, tu vois, de faire ça en disant bah, vas-y, dis-moi ce que j'ai mal fait, quoi. Et j'imagine que tout le monde n'est pas prêt à le faire en plus, quoi. Mais non, hyper cool en tout cas. Ça veut dire que tu avais aussi de bonnes relations, j'imagine, avec les gens avec qui tu avais travaillé auparavant, quoi.
Oui, effectivement, j'avais des bonnes relations, mais. Faut prendre le feedback tel qu'il est. Après, tu l'acceptes, tu l'acceptes pas. Tu peux travailler sur toi-même autour de ça. Je trouve que voilà, le fait que quelqu'un te donne ce feedback, c'est déjà en soi effectivement très intéressant et quelque chose qu'il faut valoriser, je pense.
J'ai l'impression que quand tu décris, tu vois, ce que tu as fait au début, c'est-à-dire entreprendre, construire des produits, il y avait un petit peu cette dimension, excuse-moi le mot, mais un peu geek, tu vois, dans ce que tu faisais. Tu as parlé de gaming, tu as parlé, tu vois, de serveur, tu as parlé tu as évoqué plein de termes techniques au début. Est-ce que tu t'es dit à un moment que tu avais envie d'être manager ou c'est venu un peu avec, tu vois, avec le temps, avec le peut-être le contexte, ce qui t'a été offert comme opportunité ? Tu as eu envie d'être manager à un moment ou...
Non, je me suis jamais posé en me disant « je veux absolument être manager » ou « c'est ça mon objectif ». Mon objectif a toujours plutôt été de me dire comment je peux contribuer à la croissance de l'entreprise, à la croissance de ma passion quand c'était mes sociétés, qu'est-ce que je peux faire ? Et donc, j'avais vraiment cette approche qu'on peut considérer entrepreneuriale de se dire, je suis pas en train de faire un job, je suis en train de faire une aventure et donc je participe partout. Et c'est vrai que ce qui m'a toujours plu dans le product, mais même avant que ça s'appelle product, c'était le côté cross-fonctionnel. C'est de se dire, je peux travailler sur plein d'éléments du business pour être capable de faire grandir. Et donc, quand tu fais ça, au bout d'un moment, tu commences effectivement à gérer de plus en plus de choses et de fil en aiguille, j'en suis arrivé avec des responsabilités de management aussi.
Trop bien. Bon, écoute, merci beaucoup de m'avoir un petit peu ouvert ton parcours, ce que tu as vécu et comment tu l'as vu. Moi, je te propose, Christophe, qu'on passe déjà à la deuxième partie d'épisode. Il s'agit d'un sujet organisationnel. Est-ce que tu as envie qu'on y aille ?
Eh ben, c'est parti. Merci.
Let's go. J'interromps l'échange 10 secondes pour te dire de ne pas oublier de noter Clé de Voûte 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. En faisant ça, tu m'aides à faire connaître le podcast au plus grand nombre. On reprend l'échange. Allez, on y va, Christophe, pour cette deuxième partie. Quel sujet tu voudrais qu'on évoque ensemble dans cette partie ?
Bien, aujourd'hui, j'avais envie de parler de la façon dont j'ai construit une équipe produit autonome et impactante. Comme je l'ai évoqué, je suis à distance par rapport à mon équipe, donc ça a créé des contraintes, mais aussi des opportunités, je pense, pour responsabiliser toutes les équipes et les faire travailler dans la bonne direction. Donc, je vais vous partager un petit peu cette expérience.
Trop bien. Tu disais justement, en première partie, pour les gens qui arriveraient là sur cette partie 2 et qui n'ont pas écouté le tout début de cet épisode, tu disais donc que toi, tu étais CPO de la boîte, basé à New York, toute ton équipe est basée en France, si je comprends bien. Est-ce que cette équipe, elle est en remote en France ou alors est-ce qu'elle se retrouve dans un même lieu ?
La plupart de l'équipe est en physique à Paris, mais post-Covid, ça a commencé à changer un petit peu. Il y a plus de gens qui sont partis de Paris, donc maintenant, on est assez hybride.
Et si tu veux évoquer cette partie-là, c'est parce que tu as senti qu'il y avait un petit peu une perte d'autonomie à un moment dans ton équipe et d'impact, ou pas du tout ?
Non, ça, on a toujours commencé dans ce mode-là, donc c'est quelque chose que j'ai construit dès le début, donc avant le Covid, quand je suis arrivé en 2019, début 2019 chez Botify. J'ai toujours voulu construire cette équipe dans ce sens-là pour une problématique de scale, en fait, de mise à l'échelle. Quand j'ai rejoint Botify, l'entreprise était encore relativement petite, il y avait moins de 100 personnes, et donc tout ça, à cette taille-là, ça peut bien fonctionner de façon... peu organisé parfois. Par contre, l'entreprise savait qu'elle voulait grandir beaucoup, qu'elle allait devoir avoir des équipes produits plus importantes et engineering plus importantes. Et pour ça, il fallait s'organiser différemment. Et donc, la question, c'était comment on s'organise ? Comment on va mettre en place une organisation qui va pouvoir partir à l'échelle et qui va pouvoir nous permettre de continuer d'innover ?
Ok, donc comment on maintient une organisation qui est efficace, qui a de l'impact et surtout qui est autonome, qui sait avancer seule dans des moments où elle doit avancer seule, qui connaît son périmètre et qui y va, quoi, c'est ça ? Comment tu voudrais qu'on décompose ce sujet ? Est-ce qu'il y a peut-être des points en particulier que tu voudrais qu'on creuse un petit peu ?
Le premier point dont j'ai envie de parler, c'est un point dont je n'entends pas beaucoup parler de façon générale, c'est sur les équipes, quelque chose qu'on appelle la sécurité psychologique. Alors, ça fait un peu peur peut-être comme terme quand on l'entend, mais... Je veux parler de cela parce qu'en fait, quand on parle de product manager, quand on parle d'équipe produit, et notamment quand on veut qu'elle soit autonome et impactante, ça veut dire qu'elle doit avoir la capacité de prendre des décisions et de prendre des risques. Et quand on prend un risque, on peut avoir peur de ce qui se passe si on se trompe. Or, on a besoin de prendre des risques, on a besoin de se tromper parfois, et on a besoin de le faire dans une démarche qui va être positive sur le long terme. Or, c'est pas toujours le cas dans toutes les équipes. Récemment, je parlais avec d'autres amis CPO et l'un d'eux me disait que dans ces équipes, les designers avaient peur d'aller en meeting et de présenter leur maquette parce que ils avaient peur de se faire taper dessus parce que c'est pas bien, parce que ça fait pas ci, ça fait pas ça. Et ça, pour moi, c'est le pire qui puisse arriver à une équipe, en fait. On doit être dans un mode collaboratif, on doit être dans un mode où chacun se sent à l'aise de pouvoir participer, de pouvoir partager. Et donc ça, c'est un élément clé. Et donc, je veux parler un petit peu dessus, parler de ce que nous, on a fait chez Botify pour accompagner ça, pour aider à augmenter le niveau de confiance, simplement, dans toutes les équipes.
Donc ça serait le point 1, serait parler du coup du niveau de confiance des équipes à travers la sécurité psychologique.
Tout à fait.
Ce serait quoi le point 2 ?
Alors, une fois qu'on a des équipes qui sont en confiance, qui peuvent travailler ensemble, il y a une question d'organisation et de comment on réfléchit à ce qu'on appelle la roadmap. Alors, plusieurs de tes invités précédemment en ont parlé. Je veux parler spécifiquement de comment on se focus sur l'impact. Donc, on le sait bien, c'est toujours un débat de se dire on veut pas sortir juste des features, on veut sortir des outcomes, des choses qui ont de l'impact. Je veux parler un petit peu de comment on l'a fait chez Botify, comment j'ai organisé l'organisation produit et engineering pour nous permettre de faire ça. Et la relation aussi avec, dans notre cas, dans une startup ou scale-up, les fondateurs, par exemple, comment on a cette discussion-là pour ne plus être sur un fichier Excel de 150 features, mais bien une approche stratégique de là où on veut aller.
Hyper clair. Donc ça, ce serait les deux points que tu voudrais évoquer.
Et le troisième point qui va avec tout ça, une fois qu'on a notre stratégie produit, troisième point, je pense qu'il est important de réfléchir à ce qu'on appelle le delivery, la capacité d'exécuter finalement cette stratégie produit. Et là, je veux parler du trio, du product trio, comme on dit en anglais, pour expliquer pourquoi chez nous c'est très important et comment on l'utilise.
Eh ben écoute, parfait, on a un plan qui est très clair, qui me semble être bien séquencé. Je pense qu'on peut repartir à la première étape. Donc on parlait de sécurité psychologique, je vais y arriver, en mettant l'équipe dans les bonnes conditions et en mettant l'équipe en confiance. Comment est-ce que tu vois ça, ce premier point ?
Alors, comme je le disais, pour moi, le premier point, c'est vraiment d'arriver à un mode où les différentes personnes de l'équipe, au sens très large du terme, idéalement, se sentent à l'aise pour prendre des risques, se sentent à l'aise pour communiquer, pour s'ouvrir quand ils ont des idées. Et ça, c'est pas quelque chose qui vient naturellement à tout le monde. Voire certaines organisations le mettent pas en, travaillent pas dessus et donc n'aident pas les gens à faire ça. Donc, pour moi, ça a été un élément sur lequel j'ai travaillé dès le début et il n'y a pas une baguette magique pour le faire, mais il y a plusieurs éléments quand même assez spécifiques qu'on a mis en œuvre pour essayer d'aller vers ça. Alors le premier, il est qu'il faut y passer du temps. Comme je disais, il n'y a pas de baguette magique. Il faut passer du temps sur ce sujet-là. Ça suppose de passer du temps en one-one et en groupe avec son équipe pour travailler dessus. Non, pour donner quelques petits conseils pratiques, en tout cas des petites expériences pratiques de mon côté, des choses qui ont bien marché. Et d'ailleurs, je dois remercier mon équipe parce que quand j'ai retravaillé pour préparer ce podcast, je leur ai demandé leur avis, je leur ai demandé leurs conseils, je leur ai demandé de me redire justement qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, comme je l'évoquais tout à l'heure.
Avec l'excès
d'interview. C'est-à-dire comment on peut partager ça. Et donc, ils m'ont aussi remonté pas mal de choses. Donc, je les remercie beaucoup pour leur aide sur ce podcast.
Comme quoi, préparer un podcast, c'est aussi une thérapie, c'est bien.
Exactement. Donc, pour nous, premier point, première chose que j'ai faite avec mon équipe et qui m'a aidé à créer du lien, et notamment en étant à distance, hein, parce que ça complexifie quand même énormément, c'est le temps qu'on a en one-one. Alors, évidemment, beaucoup de managers font des one-one plus ou moins réguliers avec leurs équipes. Pour moi, ce meeting, donc ce régulier qu'on peut avoir avec son équipe, c'est l'un des éléments les plus importants de ma semaine. C'est quelque chose que je vais faire toutes les semaines. Je vais le protéger vraiment dans mon agenda. Mais c'est pas suffisant de se voir toutes les semaines sur une période donnée et juste de parler de la liste des projets. Dis-moi ce que tu as fait et puis je résous tous tes problèmes opérationnels si tu en as besoin. Ça, c'est utile et c'est important, mais c'est pas ce qui va être suffisant. Un élément important que j'ai rajouté en plus et qui m'a beaucoup aidé, c'est un temps complémentaire que je faisais au départ tous les mois et maintenant je fais plutôt tous les trimestres avec mon équipe. C'est un temps complémentaire sur lequel je me dis, on ne fait pas du tout de projet. Ce temps complémentaire, il est dédié à toi et à se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe pas bien, comment on peut évoluer. Le genre de choses que parfois, certains managers vont faire qu'une fois par an au moment où l'équipe RH dit, c'est le moment de l'entretien annuel, posez-vous des bonnes questions. Alors moi, j'ai essayé de le faire beaucoup plus souvent. L'objectif de ce meeting-là, c'est vraiment de prendre du temps et de mieux se connaître et de sortir de l'opérationnel. Donc c'est un moment qui est calé dans l'agenda, qui est régulier et sur lequel j'ai deux questions toujours et je les approche comme une rétrospective. Je veux dire finalement, qu'est-ce qui s'est bien passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu dans ce meeting-là, donc dans le dernier mois ou le dernier trimestre, qu'est-ce qui s'est moins bien passé et que tu aimerais améliorer. Donc ça, c'est deux questions qui sont toujours là. Et en complément de ces deux questions, je vais rajouter une ou deux questions complémentaires qui vont changer sur chaque meeting, qui vont être l'occasion de creuser certains autres sujets. Alors ça peut être des questions du type très simple, de dire... Comment je peux être un meilleur manager pour toi ? Alors ça revient un peu à ce que j'évoquais en introduction, c'est de se dire, je dois aussi, moi, en tant que manager, me rendre vulnérable et me laisser la porte ouverte à un feedback. Alors ça, c'est une question qui n'est pas évidente et ce n'est pas la première que je pose à un nouvel employé parce qu'en général, il aura du mal à y répondre tout de suite.
Bien sûr, ouais. Mais,
oui.
Oh, je te laisse continuer.
au bout de quelques mois, c'est quelque chose sur lequel on peut aller et qui permet de récupérer du feedback. Mais ça peut aussi être des questions du type, sur quoi voudrais-tu passer plus de temps ? Dans les prochains mois, dans les prochains semestres. Ça permet de comprendre en fait ce que les gens aiment, ce qu'ils préfèrent dans leur quotidien et de pouvoir travailler avec eux sur comment on fait ça dans les prochaines étapes. Donc ça, c'est vraiment un moment super important qui pour moi est critique dans la mise en place de cette relation de confiance entre les différentes personnes.
Donc tu crées du lien en fait en leur posant des questions et en te rendant disponible et en montrant que tu es ouvert aussi à la remise en question et à la critique quoi, finalement.
Exactement, exactement. Okay. Donc ça, c'est super important. L'autre élément qui va avec tout ça, c'est ça passe au niveau du recrutement aussi et des équipes qu'on a envie d'avoir. On peut faire tout ça si on a certaines équipes qui sont pas dans l'état d'esprit d'aller vers ça, ça va être très difficile. Donc pour nous, en fait, au moment du recrutement, ça se passe déjà par l'humain. C'est pas juste tes compétences techniques ou tes compétences spécifiques sur ton domaine. C'est vraiment, est-ce qu'en tant qu'humain, tu es quelqu'un avec qui on a envie de travailler ? Et notamment, un des points qu'on va regarder, c'est ta capacité de collaborer, de regarder tes erreurs de passé, comment tu parles justement de tes erreurs ou pas, est-ce que tu es capable d'en parler, quel est ton niveau d'ego aussi. Tous ces éléments-là pour nous sont très importants au moment du recrutement et font qu'on essaie d'attirer dans nos équipes des gens qui vont avoir envie d'être dans ce mode de collaboration. Une fois que ça s'est fait pour nous en termes de posture, un autre élément qui je pense est important pour les managers, en tout cas la façon dont moi j'essaie de l'approcher, c'est la posture du manager en tant que coach. C'est de me dire, mon job en tant que manager, c'est pas de suivre ta liste de tâches. Mon job en tant que coach, c'est de t'écouter, de comprendre là où tu peux aller derrière, de t'aider à atteindre ces objectifs-là et de te donner un cadre de travail clair qui te permet d'exceller pour toi et pour la boîte, bien entendu. Cette posture de coach, je pense qu'elle est importante parce qu'elle permet vraiment de se mettre dans une posture d'écoute, ce que j'évoquais juste avant. C'est-à-dire d'abord, j'écoute, j'essaie de comprendre ce que chacun ressent, ce que chacun a envie de faire. Et à partir de ça, on essaie de construire sur la suite. Et dernier élément sur la partie management d'équipe que j'utilise, c'est de bien clarifier les rôles et responsabilités de chacun. Clarifier les attentes, mine de rien, ça paraît évident, mais c'est pas toujours fait. Des product managers, il y en a plein. Il n'y a pas deux product managers qui font la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire d'être product manager chez Botify? Qu'est-ce que j'attends d'un product manager qui arrive? Et donc là, je clarifie aussi assez vite les attentes, comment on travaille en tant qu'équipe. On a un playbook avec nos principes d'équipe qui sont clairement écrits et qui permettent à tout le monde de comprendre notre état d'esprit en tant qu'équipe produit chez Botify. Et ensuite, plus spécifiquement, pour chaque personne de l'équipe, des grilles de compétences qui permettent de comprendre voilà les attentes un peu plus spécifiques de ton poste.
Et ces grilles, elles sont utilisées quand? Tous les ans, sur un rythme défini, dans certains contextes?
Moi, je les utilise tous les 6 mois avec les équipes, parce qu'on ne change pas non plus d'éléments tout le temps, mais tous les 6 mois, on reprend la grille. Et la grille, elle permet d'avoir une discussion qui, là aussi, est plus une discussion de coach qu'une discussion c'est bien, c'est pas bien. Parce qu'en fait, la grille, elle te permet de voir ce que tu sais déjà bien faire par rapport à ce qu'on pouvait attendre, ce que tu ne sais pas encore faire et de se poser des questions sur « Ok, ça, c'est en attente à ton niveau ou au niveau d'après ». Est-ce que tu as l'occasion de le tester? Non. Comment on peut faire pour que ça change le trimestre d'après? Et donc d'avoir une vraie discussion sur l'évolution de chaque personne par rapport à sa grille de compétences. Ça dépassionne énormément les sujets, ça les rend très, très pratiques. Et donc c'est vraiment un outil très important pour moi dans l'équipe pour avoir une discussion claire et ouvrir des opportunités à chacun.
Hyper clair. Là, tu as fini quasiment le premier point sur la partie sécuriser psychologiquement les équipes, ou est-ce que tu avais encore autre chose à rajouter dessus?
Je pense qu'il y a quelques points complémentaires que je veux évoquer sur ce sujet-là, c'est la gestion des erreurs. Aujourd'hui, quand on pense à la sécurité psychologique, il y a évidemment le côté de comment on va gérer les erreurs. C'est important d'encourager les équipes à parler de leurs erreurs. Et ça passe d'abord par les managers. Est-ce que toi, en tant que manager, tu es à l'aise pour dire « je me suis trompé » ou « j'ai pas bien réagi » ou « j'ai pas bien fait telle chose » et donc « je m'excuse » et voilà ce qu'on peut faire demain pour être mieux. Donc ça revient à cette position de vulnérabilité à l'intérieur de l'équipe. Comment on met ça en avant et comment on aide les équipes à bien sûr en parler. Donc la position de leader est importante. Le modèle en fait qu'on représente pour le reste de l'équipe est évidemment très très important. C'est aussi une question d'encourager la diversité de pensée, je pense. Comment on permet à chacun de penser et de partager ce qu'il pense. Chez Botify, on va essayer de mettre en avant ça dans différents éléments. Ça va être notamment dans la capacité de se dire, il n'y a pas de bonne méthode, il y a des méthodes qu'on a aujourd'hui, comment tu veux proposer. Et donc, on va encourager les gens à proposer des améliorations sur la méthode, sur notre façon de travailler. Ça va être aussi sur la capacité à faire des choix. Chaque personne sait dans son périmètre quels sont les choix qu'il peut faire ou ne pas faire. Et donc, on va l'encourager à faire ces choix-là et à les rendre responsables de ces choix-là. Et de façon générale, c'est la culture qu'on met autour de tout ça. Comment on favorise une culture de confiance? Et c'est des petites choses qui vont faire la différence. La capacité à chacun de valoriser le travail des autres, de parler de « on » au lieu de « je », la capacité d'encourager les gens à prendre la parole dans une équipe et à forcer ça, parce qu'il y a toujours des gens qui sont plus timides que d'autres et qui ne vont pas vouloir le faire. Comment on les met en avant et on leur permet, dans un environnement qui est sûr, de commencer à prendre la parole en petite réunion d'équipe, par exemple, pour qu'ils puissent prendre de l'habitude. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont un par un, finalement assez simples dans ce que je dis là, mais mis tous ensemble, créent une culture, créent une habitude de confiance et donc permettent in fine à toutes les équipes d'être beaucoup plus performantes.
Trop bien, c'est beaucoup de choses à mettre en place, j'ai l'impression. Combien de temps ça t'a pris, toi, pour formaliser tout ça et te dire, comment je fais pour que mes équipes se sentent en confiance, me parlent sans trop de difficultés, me fassent remonter ce qui va, ce qui ne va pas, et tu vois, aient envie de continuer à construire une orga qui tourne, quoi?
La mise en place, le début de la mise en place peut aller très vite. Finalement, je pense que j'ai commencé dès que je suis arrivé chez Botify. Par contre, le reste prend du temps. Parce que même si on met tout ça en œuvre, c'est pas pour ça que du jour au lendemain, tout le monde a confiance en toi et se dit que ça marche. En fait, il y a une question de temps, simplement, d'avoir vu les choses plusieurs fois, d'avoir vu comment ça se passe en pratique et de se dire, OK, j'ai vu que sur ces 3 exemples-là, quand quelqu'un a fait une erreur, voilà comment on réagit. Et du coup, progressivement, la confiance s'installe et permet à chacun de rentrer dans le process d'une meilleure façon.
Est-ce qu'il y a des signaux en particulier qui te font te dire « là, ça y est, mon équipe, elle est en confiance, elle est rentrée dans ce mode que je voulais insuffler, tu vois, dans la boîte, Et voilà, ça tourne, on sent qu'il y a moins de, il y a moins de crainte, il y a moins de peur de prendre des risques, il y a moins de peur de, d'afficher son travail, tout ce que tu disais au début, tu vois, en symptômes. Voilà, quand est-ce que tu sais, tu vois que,
ouais, très bonne question. Ouais. Alors, c'est quelque chose qui se fait, c'est plein de petits signaux. Je pense que le premier que je vois sur les membres de l'équipe avec lequel le niveau de confiance est vraiment très élevé, c'est leur capacité à eux-mêmes être vulnérables en face de moi. D'être capable de venir me voir en me disant là je suis sous l'eau, ou là ça va pas, ouais, ou là j'ai besoin d'aide, et d'arriver vraiment à dire ça, à se confier d'une façon précise, qui pour moi est super importante, parce qu'encore une fois, le fait qu'ils soient capables de venir vers moi avec ça, ça me permet de pouvoir trouver avec eux la bonne solution pour le résoudre. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant. L'autre élément, c'est comment ils vont se comporter auprès des autres équipes. Un exemple que j'ai par exemple dans l'équipe, ça va être certaines personnes qui vont plus facilement être capable de présenter au reste de notre équipe leurs travaux en cours. Alors, quand on est un designer, par exemple, on n'aime pas souvent montrer sa maquette au milieu du travail. Ça, c'est un signe justement de confiance, d'être capable d'aller devant les autres designers de l'équipe et dire bah, « voilà ce que j'ai », critiquer un peu mon travail. Et pas attendre d'avoir tout fignolé, de se dire « ça y est, je suis parfait, là, vous n'avez plus rien à redire, vous êtes sûr ». Donc, c'est ces petites choses aussi qui permettent de voir le niveau de confiance entre l'équipe. Ce n'est pas juste entre le manager et l'équipe, mais c'est vraiment entre tous les membres de l'équipe.
Super clair. Merci beaucoup, Christophe, pour cette partie. Je te propose qu'on bascule au point 2 que tu évoquais au tout début dans le petit sommaire de ce sujet. Le point 2, c'était du coup le fait de plus vraiment penser, tu vois, de penser plus impact, en fait, si je comprends bien. Comment tu vois cette partie?
Ouais. L'expérience que j'ai eue chez Botify, c'est une expérience que beaucoup qui travaillent en startup ont probablement eu ou vont avoir pour ceux qui vont découvrir ça. Une startup, évidemment, ça commence dans un mode où elle cherche son market fit. Ça veut dire qu'elle va chercher à tester plein de features, tester des choses et découvrir ce qui marche et ce qui marche pas. L'expérience que j'ai eue chez Botify et que je vais partager là, c'est après ça. C'est-à-dire qu'on a trouvé notre market fit. Maintenant, on a besoin de faire grandir tout ça, faire grandir notre offre de produits, faire grandir notre nombre d'utilisateurs. Comment on fait ça? Et à ce moment-là, la solution, c'est plus une liste de 150 fonctionnalités qu'il faut rajouter parce qu'on a vu que le concurrent les a ou parce que machin nous a dit qu'il fallait les avoir. Pour changer ça, chez Botify, la façon dont je l'ai faite, elle est finalement assez simple. Elle est de se dire, il faut comprendre ce que les clients ont besoin. Donc, dans une société comme la nôtre où on travaille en direct avec les clients, le premier feedback que j'ai pu donner aux équipes et que j'ai mis en œuvre, c'est est-ce qu'on rencontre des clients? Est-ce qu'on récolte tout le feedback des clients? Parce que c'est bien de les rencontrer, mais qu'est-ce qu'on fait de ce feedback? Donc là, moi, un conseil pratique aujourd'hui que je donne à mes équipes et potentiellement à d'autres, c'est-à-dire collecter de façon organisée ce feedback. La capacité à prendre du feedback est super importante et il faut former les équipes à ça. C'est pas juste d'aller parler à quelqu'un et de lister toutes les demandes de fonctionnalités que la personne a faites. La question la plus importante qu'il faut aller poser quand on va chercher du feedback client, c'est pourquoi? Et c'est ce que je répète en permanence à mes product managers, à mes designers, quand on parle à un client ou même à quelqu'un de l'équipe Botify et qu'on vous demande quelque chose, demandez bien pourquoi, pour être vraiment sûr d'avoir compris la raison derrière ça. C'est souvent plus facile pour des personnes de te dire « je voudrais un bouton vert en bas à droite qui exporte dans un format CSV ces métriques-là ». Ok, donc tu peux noter, toi en tant que product manager, il me faut un nouveau bouton vert en bas à droite de cet écran. Bon, très bien. Mais si tu ne sais pas pourquoi, tu n'as rien fait. Et en fait, en posant le pourquoi, tout d'un coup, cette même personne va te dire « Ah ben oui, mais tous les lundis matins, mon chef me demande un rapport sur la performance et donc j'ai besoin de lui donner un dashboard. Ah. » Et donc là, on comprend mieux que d'un côté, tu as pu avoir juste une demande fonctionnelle qui peut-être t'aura permis à ton utilisateur d'atteindre ça et de l'autre côté, tu as un vrai problème. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre les problèmes de nos clients et ensuite, ce sera le travail des équipes de trouver les meilleures solutions. Peut-être que la meilleure solution, c'est de faire un bouton vert qui exporte en CSV ces données, ou peut-être qu'il y a une meilleure solution pour régler le problème de l'utilisateur. Et ça, l'utilisateur ne peut pas le savoir, et ce n'est pas à lui de faire ce travail.
Donc c'est une attitude à avoir, selon toi, en tant que PM, pour avoir plus d'impact sur ton produit, finalement, ou plus d'autonomie.
C'est extrêmement important. Ouais. Et pour nous, c'était majeur également, parce qu'on est dans un domaine du marketing, du SEO, qui est un domaine plutôt de niche, même à l'échelle du marketing. Et donc, les product managers et les équipes qui arrivent chez Botify ne sont pas tous des experts du SEO en arrivant. Il y a évidemment des plus grands experts qu'eux partout. Et donc, s'ils ne passent pas de temps avec les clients, avec nos experts en interne autour de ça, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas avoir de l'empathie pour ces problèmes-là. Et donc, ils ne pourront pas bien prioriser les problèmes et donc encore moins trouver les bonnes solutions à ces problèmes. Donc, chez Botify, ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, on parle aux clients en direct le plus possible. Mais on récolte aussi de l'information de toutes nos équipes clients. Aujourd'hui, nos équipes support, nos équipes sales, nos équipes customer success sont en contact avec plus de clients que chaque PM ne peut le faire au quotidien. Et donc, tout ce feedback-là, on l'agrège, que ça soit dans Salesforce, dans Slack, dans des emails. On récupère tout ça, on le met dans un outil. Nous, on utilise Product Board, mais il y en a d'autres. Et on va vraiment trier chaque feedback qu'on reçoit et connecter chaque feedback à soit un problème, si on est capable de le faire, soit parfois à une feature, si c'est vraiment quelque chose de très granulaire et que ça ne remonte pas forcément au niveau du problème. Toujours en demandant le pourquoi.
Hyper clair.
Ça, c'est très important.
Il y a beaucoup d'équipes, tu vois, qui utilisent, je pense, la remontée de feedback, alors toutes ne le font pas comme ça. Est-ce que toi, tu vois chez Botify quelque chose de particulier que vous faites justement pour vraiment que tu vois que les PM à qui tu bosses pensent impact tout le temps en particulier, au-delà de remonter du feedback, tu vois?
Bien
sûr, il y a une attitude
Tout à fait. Ouais. Alors, je vais y venir justement parce qu'en fait, on va parler de ce qu'on fait de ce feedback après. Comment on l'utilise et comment on est capable de prendre tout ce feedback. Parce qu'à la fin, même quand tu as fait ça et que tu l'as fait très bien, tu te retrouves avec des centaines ou des milliers de problèmes. Et donc, tu es un peu plus avancé, mais tu n'as pas la réponse encore à tout. Donc, il y a un deuxième élément qui va être important derrière, ça va être comment tu utilises ce feedback. Et ça, ça va nous amener à la stratégie produit. Une fois que tu as tout ce feedback, en tant que product manager, qu'est-ce que tu fais? Alors là, il y a plein de frameworks qui te permettent de dire, tiens, je vais prioriser ça en fonction de mon niveau de confiance, le coût, l'impact, etc. Et ces frameworks sont intéressants, mais j'ai envie de dire souvent, il faut commencer beaucoup plus haut. Il faut vraiment se poser la question, comment tu priorises tes initiatives au niveau global de la boîte? Il y a un framework que j'utilise chez Botify qui nous permet de travailler, qui est un framework que j'ai pas inventé, qui existe sur le marché. Notamment, j'ai été beaucoup inspiré par un livre de Melissa Perry que je recommande, qui s'appelle Escaping the Build Trap. Pas traduit en français, je crois. Et il y a un des éléments dans ce framework qui est très important, c'est le côté comment on découpe cette vision produit, cette stratégie produit. Souvent, donc, je l'ai évoqué, quand on parle roadmap, on pense liste de features. Et c'est ce que les équipes vont nous demander. En fait, nous, on va remonter de plusieurs niveaux. On va se dire, quelle est la vision de la boîte? À 5 ans, qu'est-ce qu'on veut faire? Quels sont les éléments importants pour nous? Maintenant, j'ai ces éléments importants pour nous. En tant que boîte, et là c'est le travail du CPO, de l'équipe dirigeante, quels sont les changes les plus importants? En fonction de la taille de la boîte, tu peux en choisir 2, 3 ou peut-être un peu plus, mais c'est un petit volume. Quels sont les grands challenges dans les 12 mois qui viennent ou 18 mois qui viennent qu'il faut qu'on règle pour être capable de se rapprocher de notre vision? Ces challenges-là sont super importants à définir parce qu'ils vont être assez structurants sur ce que tu vas vouloir faire. Une fois que tu as défini ces challenges, pour te dire « Ok, maintenant que j'ai ce challenge, comment je vais pouvoir le mesurer d'un point de vue produit? Quels sont les outcomes, comme on dit en anglais, que je vais pouvoir mesurer, qui vont me permettre de dire, OK, je suis en train d'améliorer ce challenge. Et une fois que tu as ça seulement, là, tu peux commencer à te dire, OK, maintenant, j'ai une vision claire. Je sais quels sont les problèmes majeurs qu'il faut que je règle d'un point de vue business pour m'approcher de ma vision. Je connais une façon de mesurer mon progrès. Maintenant, je peux réfléchir à quelles sont les initiatives produits qui vont m'aider dans cette direction-là. Et derrière, les fonctionnalités que je vais pouvoir mettre en œuvre autour de tout ça. Et donc, ce process, il est extrêmement important. Et là, ce qui est important dans l'histoire, c'est que certains éléments du process, c'est de la responsabilité de l'équipe dirigeante. Évidemment, le PM ne va pas définir la vision de la société. Ça, c'est le CEO qui doit faire ça, en grande partie, avec l'aide de quelques personnes. Définir les challenges et les outcomes, ça va être un travail de l'équipe dirigeante un peu plus élargie en général. Et ensuite, trouver les bonnes initiatives produits et les fonctionnalités, ça va redescendre au niveau des équipes. Et c'est là où on va pouvoir commencer à redonner de l'autonomie aux équipes, parce que je vais pouvoir aller vers elles en leur disant « Voilà clairement où on veut aller, voilà des métriques proxy importantes que tu vas pouvoir suivre pour savoir si tu vas dans la bonne direction ou pas. Et maintenant, à toi de trouver les bonnes initiatives produits. » Et là, maintenant, tu peux remonter dans ton feedback que tu as récupéré de tous tes clients et te dire « Quels sont les problèmes clés que j'ai entendus qui matcheraient avec ces challenges qu'on vient de donner ?» Et donc là, l'équipe est en mesure de faire des choix sans mon aide. Et c'est ça qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils ont un framework, des règles, on va dire, de travail qui leur permettent de savoir dans quel cadre ils sont, qu'est-ce qu'ils essaient de résoudre, et donc de pouvoir par eux-mêmes prendre un certain nombre de décisions.
Et toi, tu interviens à quel moment pour valider quand même, j'imagine, tu vois, ce que eux vont décider eux-mêmes comme résultat, comme outcome à mettre en place. Toi, tu interviens à la fin pour les valider quand même, ou tu les laisses jusqu'au bout décider leur outcome?
Alors, on va avoir des discussions sur tout ça, et notamment sur la mesure de l'outcome, qui est un vrai sujet. Parce qu'en fait, quand on se dit tout ça, on se dit, OK, on doit prendre des bets, quand même, des paris, en fait, sur beaucoup de features. On n'aura pas toujours un niveau de confiance incroyable. D'ailleurs, sur ça, j'encourage... J'ai un outil que j'aime beaucoup sur le niveau de confiance, qui est un outil de Itamar Gilad, qui s'appelle le Confidence Meter, en anglais. C'est, en gros, c'est comment tu mesures ton niveau de confiance sur un projet. dans certains frameworks, on te dit, bah, donne ton niveau de confiance entre 1 et 10. Et pourquoi je suis à 8, pourquoi je suis à 6, c'est toujours difficile à dire. Itamar, en fait, ce qu'il a fait de très intéressant, c'est qu'il a créé une échelle très claire. Et en gros, ce qu'il te dit, c'est que entre 0 et 1, c'est tout ce que tu entends en général dans la boîte. Ton niveau de confiance entre 0 et 1, c'est juste ton boss t'a dit que c'était une bonne idée. T'as entendu dans le couloir que quelqu'un d'autre t'a dit que c'était une bonne idée. Ou t'as vu quelqu'un dans la rue te dire que c'était une bonne idée. Tous ces signaux faibles qui, en gros, sont juste l'avis de quelqu'un, mais qui ne sont pas très structurants. Et en fait, il te montre ensuite dans le framework que tout ce qui va te permettre de vraiment monter ton niveau de confiance, c'est de la donnée, de la vraie donnée. Et donc, ça peut être des enquêtes sur un plus grand nombre d'utilisateurs. Ça peut être un nombre de feedback que tu as vraiment collecté at scale sur plusieurs utilisateurs. Ou ça peut être, quand tu vas plus près de data release, des tests. C'est-à-dire, bah oui, en fait, les niveaux de confiance entre 7 et 10 dans son framework, ça va vraiment être, bah, j'ai été capable de tester telle feature ou j'ai eu un prototype que j'ai montré à X personnes et qui m'a convaincu que. C'est assez rare, en fait, d'arriver à ce niveau-là. Souvent, tu peux pas aller aussi loin. Et donc, ce qu'il faut que tu saches, c'est quel est ton vrai niveau de confiance par rapport à ces données. Et du coup, combien tu vas vouloir investir de temps en termes de développement ou parfois de tests en amont pour être capable d'augmenter ton niveau de confiance si tu sais que ça va être un produit ou un projet qui va être assez long. Donc ça, c'est un élément important. Et ça nous fait réfléchir tous ensemble sur, bah, c'est quoi tes hypothèses? Et donc, un conseil pratique que je donne là, c'est vraiment de réfléchir à comment créer l'hypothèse. Tu crées un nouveau projet ou un nouveau produit ou une nouvelle fonctionnalité auquel que tu crois vraiment. Quelle est ton hypothèse de succès? Si ça marche, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Et ça, pour ça, eh ben, il faut être capable d'avoir un peu de mesure, hein, donc il faut connaître un peu son produit. Donc là, c'est un vrai avantage si tout ce qui se passe déjà sur ton produit est bien traqué. Et tu vas pouvoir te dire, bah, en fait, je pense que si ça fonctionne, telle persona dans mon produit qui fait déjà telle ou telle action va faire telle ou telle chose. Et je m'attends à ce que 20% de ces users-là fassent cette action-là demain. Et ça se connecte à mon objectif macro de ma société. Être capable d'écrire cette hypothèse, elle n'est pas toujours juste. C'est d'ailleurs assez rare qu'elle soit parfaitement juste en définissant l'hypothèse. On avait vu tout juste sur la métrique. Par contre, elle te donne quand même une direction. Elle te dit vraiment, en te faisant réfléchir à c'est quoi le meilleur cas qui peut se produire. Et tu regardes les chiffres, tu dis, en fait, dans le meilleur cas, je vais bouger de 1% à tel type de user. Peut-être qu'en fait, c'était pas la meilleure idée que je pouvais avoir. Si ça, c'est mon meilleur cas que je pense qu'il va avoir. Donc ça permet aussi, encore une fois, aux équipes de réfléchir par elles-mêmes en regardant les données et en se posant des questions sur quel est l'impact de ce qu'elles vont avoir et comment le partager aussi avec les autres équipes.
Hyper clair. Il y avait un troisième point, il me semble, Christophe, que tu voulais aborder ici sur la delivery en particulier, je crois.
Exactement. Donc, une fois que tu as tout ça, là, tu as des idées. Tu te dis, OK, maintenant, on a des objectifs à atteindre. On a une vision claire de ce qu'on veut faire. Maintenant, il faut délivrer des fonctionnalités, ok? Et là, il y a encore un autre travail qui arrive. Comment on délivre des fonctionnalités de façon efficace? Et comment on s'assure que l'équipe comprend ce qu'elle fait? Et là encore, je suis dans une logique, pas de top-down, mais d'équipe autonome. Pour avoir une équipe autonome, il faut une équipe. Et pour nous, l'équipe, c'est ce qu'on appelle le trio produit. Le trio produit, c'est vraiment le noyau de tout le reste. Donc aujourd'hui, on a plusieurs squads, tels qu'on les appelle. Souvent, les squads dans les équipes, ça va être plusieurs ingénieurs donc, qui vont développer. Ça va être une personne de l'équipe QA. Ça va être un designer, une product manager. Dans ces équipes-là, le trio produit, ça va être product manager, designer et lead dev. Ce trio, il est extrêmement important pour nous parce qu'en fait, c'est les trois personnes clés qui tiennent l'ensemble de l'équipe. Donc nous, on a fait plusieurs choses pour faire ça. Alors déjà, je sais que c'est un concept que tout le monde ne connaît pas, le trio produit. Je pense qu'il est vraiment fondamental dans la capacité à des équipes produits à délivrer de façon impactante. Pourquoi ? Parce que souvent, on parle de la distinction entre, par exemple, product owner et product manager. Ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais chez Botify, les product managers sont ce qu'on pourrait dire full stack. C'est-à-dire qu'ils sont en charge de la compréhension du problème jusqu'à la delivery du problème. Ça fait beaucoup de choses à faire. Une personne, en fait, ne peut pas faire tout ça complètement. Elle a forcément besoin d'être entourée d'experts sur différents éléments. Et ce trio, il sert à ça. Il sert à apporter des compétences fortes sur la partie design, sur la partie lead tech, qui contribue à l'équipe avec le product manager. Donc, sur ce product trio, les éléments importants pour nous, c'est de dire, ensemble, les trois personnes du trio, donc le product manager, designer et lead dev de l'équipe, vont être en charge de la discovery, de la définition des opportunités produits, de définir clairement les outcomes de chaque projet, chaque feature qu'on va développer, de trouver ensemble les solutions et d'itérer ensemble sur tout ça. Et le ensemble là-dedans est très important. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de faire en sorte que l'équipe de dev, via notamment le tech lead, le designer et le PM, sachent faire tout ça ensemble. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans tous les meetings tous les trois. Et c'est là où la collaboration et la communication entre ces équipes est importante. Une astuce aujourd'hui que nous, on utilise régulièrement, là encore dans cet objectif de rétrospective un petit peu, c'est qu'on organise dans ces équipes régulièrement des ateliers de communication. Un truc très bête que l'équipe m'a remonté encore récemment et qui fonctionne pour nous, c'est de faire un petit atelier où on va demander à l'équipe de partager ensemble la façon dont ils aiment communiquer. Ça paraît tout bête, mais en même temps, tout le monde n'aime pas communiquer de la même façon. Certaines personnes vont être très contentes de recevoir des messages Slack très longs qui récapitulent tout ce qui s'est passé la veille. D'autres détestent ça, ils n'ont certainement pas envie d'un écran aussi grand et préfèrent passer 5 minutes au téléphone. Et bien des choses aussi bêtes que ça, si on ne se les dit pas, on ne le sait pas. On ne sait pas que les différentes personnes n'aiment pas tel type de façon de travailler. Et ça, ça crée de la friction et ça crée in fine des choses qui fonctionnent moins bien. Et donc pour nous, cet atelier-là où on va simplement se dire qu'est-ce que tu aimes bien dans la méthodologie pour écrire par exemple, est-ce que tu aimes bien écrire ou pas écrire, qu'est-ce que tu aimes bien à l'oral, qu'est-ce que tu aimes bien dans les meetings, et de comprendre les forces et les faiblesses de chacun ou les intérêts, l'attente de chacun dans chaque, vont nous permettre d'améliorer la communication dans l'équipe et de renforcer encore une fois là la collaboration d'équipe, la confiance dans l'équipe, parce que les gens se connaissent leurs différences et savent comment ils aiment bien travailler ensemble. Donc ça, c'est une petite astuce, mais qui fonctionne très bien pour nous. Autre élément important pour nous sur ce trio, c'est in fine, un trio qui fonctionne bien, c'est des personnes qui peuvent, sur une courte période, se remplacer. Un product manager part en vacances, la designer sait prendre le relais et valider des choix produits. Pourquoi ? Parce qu'elle sait exactement ce qu'on va faire. Mais un autre exemple peut être, les développeurs découvrent au moment du développement que finalement quelque chose est plus difficile que prévu. Ils sont capables de revenir au PM, pas avec « Ah ben j'ai trouvé ce problème, dis-moi ce qu'il faut faire », mais avec « J'ai trouvé ce problème, j'ai réfléchi à 3 solutions parce que je sais ce qu'on veut vraiment faire derrière, et d'ailleurs je pense que ça c'est la meilleure solution, qu'est-ce que t'en penses ?» Et ça change complètement la dynamique. On n'est plus encore dans une dynamique top-down où un développeur va attendre d'une PM une réponse, mais bien dans une logique d'équipe, on sait tous dans quelle démarche on est, dans quelle direction on va, et on va pouvoir ensemble travailler vers cette démarche-là. Donc, dernier point dans tout ça qui est extrêmement important, je pense que pour tout ça fonctionne, j'en ai pas encore tellement parlé, c'est bien sûr la collaboration avec l'équipe de développement. En tant que product manager, c'est l'un des éléments les plus importants, puisque c'est ça qui va créer, in fine, la vélocité. L'élément zéro, je pense que c'est la collaboration entre le CPO et le CTO ou les équivalents dans vos équipes. S'il n'y a pas une bonne collaboration, une bonne entente à ce niveau-là, ça va être difficile. Chacun tire sa roadmap vers soi, ses projets tech versus ses projets produits, c'est pas une bonne relation. Cette relation-là, elle est super importante et il faut au niveau managerial, je pense, y consacrer du temps. Après ça, la relation du tech lead dans le trio est très importante, donc je l'ai évoqué juste avant quand je parlais du trio. Investir sur le fait que le tech lead de la squad doit vraiment comprendre les outcomes, avoir de l'empathie pour les clients et les problèmes des clients et permettre vraiment d'être un élément à part entière de la solution. Ce qu'on fait, cela dit, chez nous, c'est que c'est pas parce que j'ai parlé beaucoup du tech lead dans le trio que c'est le tech lead qui fait toutes les décisions. Encore une fois, on veut pas être top-down. Une des choses qu'on a faites un peu plus récemment, c'est de décider de nommer des responsables sur chacun des sujets côté technique. Et le responsable, c'est pas le manager. Le responsable, ça va être d'autres personnes de l'équipe. Et en fonction du projet, c'est une personne différente qui peut être responsable du sujet. Et cette personne, en tant que responsable, elle va avoir différentes responsabilités, bien sûr, mais différents objectifs à atteindre, comme la clarté du plan de projet, par exemple, le suivi des différentes étapes de ce projet, etc. Parfois, l'architecture du projet. Et ça permet de responsabiliser aussi chaque membre de l'équipe sur les projets qui sont à leur taille. On répète en permanence le pourquoi, la vision, les problèmes qu'on souhaite régler pour embarquer vraiment toute cette équipe-là vers la solution qui n'est pas top-down, mais qui est vraiment une solution d'équipe. Et on itère sur les process. Je l'ai évoqué un peu tout à l'heure. Pas de dogme. Régulièrement, on fait vraiment une itération sur les process. C'est quoi la santé de notre équipe, de notre trio? C'est une rétrospective, mais vraiment une rétrospective dans un mode comment on apprend ensemble et pas juste de dire « Ok, sur la dernière semaine, donne-moi 3 idées et puis on les oublie à la fin de la rétro. » C'est concrètement qu'est-ce qu'on prend comme action qui vont nous faire évoluer en tant qu'équipe pour qu'on soit meilleur dans les 3-6 mois qui viennent.
Concrètement, quand tu itères sur les process, c'est quoi la fréquence de revue de ces process?
Ça va être très ad hoc puisque ça va dépendre en fait d'où les équipes en sont et c'est elles en général qui vont sentir ce besoin et vouloir itérer là-dessus. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une règle là-dessus. Je dirais que tous les trimestres, il y a des choses qui évoluent dans chacune des équipes, plus ou moins. Évidemment, on ne change pas tout en permanence, mais régulièrement, il y a des choses qui se passent. Et il va y avoir de l'émulation parce qu'en fait, il y a des équipes qui vont vouloir tester des choses, qui vont dire, bah, tiens, nous, on va faire justement ce do and don't de communication. On va réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on aime bien faire, comment on aime bien communiquer. Une équipe va le faire, va partager son expérience et les autres vont se dire, ah ouais, ça serait pas mal, tiens, on va faire ça aussi. Et tout d'un coup, on a toutes les équipes qui vont utiliser ça et qui vont apprendre de cette expérience.
Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Christophe d'avoir mis tout ça sur papier et nous avoir décrit un petit peu comment tu as fait. Donc pour synthétiser, parce que là il y a eu beaucoup d'éléments, c'est hyper riche et heureusement que je vais livrer une partie écrite pour les gens qui souhaitent vraiment s'en imprégner. Pour pouvoir créer une équipe produit tech au sens large qui est impactante et autonome. Donc étape 1, c'est de mettre tout le monde en confiance en utilisant bien sûr des choses qui vont venir renforcer la fameuse sécurité psychologique que tu as évoquée au début. L'étape 2, c'est de pouvoir impliquer tout le monde dans la construction des résultats, des outcomes de chacun des membres de l'équipe ou alors tout simplement des outcomes par équipe. Tout ça découlant de la strat et de la vision. Et l'étape 3, c'est de faire attention à bien mettre en valeur la façon dont les équipes travaillent via ce mode trio dont tu parlais, c'est-à-dire un mode de fonctionnement qui est PM plus Product Designer plus Lead Dev, Lead Tech, qui travaille main dans la main pour pouvoir construire le produit et le faire avancer. C'est bien ça ?
Tout à fait.
Bon, bah, trop bien. Écoute, je crois qu'on a bien résumé. Tu as autre chose à ajouter dessus ?
Non, merci beaucoup.
Bah, écoute, cool. On passe à la partie 3. Est-ce que tu es prêt à y aller ?
Allez, c'est parti.
C'est parti. Allez, c'est parti pour cette troisième partie, Christophe. De quoi tu veux nous parler dans cette courte partie du podcast ?
Eh bien, je veux parler de la posture du PM et le PM en tant que business leader.
Allez, c'est parti. Pourquoi tu veux parler de ça ?
J'entends parfois dire que les PM sont des mini-CEO. Et en fait, quand je vois beaucoup de PM, je les vois en été très enfermés sur eux-mêmes, sur des process, sur du court terme. Tout l'inverse d'un CEO. Alors peut-être que c'est mon biais d'ex-entrepreneur, mais en prenant du recul sur ma carrière, je me suis rendu compte que à chaque fois que j'ai approché un poste, je l'ai toujours approché d'abord en me disant « quel est le business ?» Et donc aujourd'hui, je pense que les PM manquent un petit peu de ça. Ils sont focusés sur « je veux faire de la discovery » ou « je fais de la delivery ». Mais en fait, ils se posent pas la question importante de départ. Et je pense que c'est le premier type pour eux quand ils arrivent, notamment dans une nouvelle boîte. Mais même si vous l'avez pas fait en arrivant, vous pouvez toujours le faire aujourd'hui. La priorité en arrivant en tant que PM, c'est pas de connaître le backlog en cours. C'est de connaître comment le business fonctionne. Alors pour ça, le truc super évident, c'est juste suis l'argent. D'où vient l'argent? Qui le donne? À quelle fréquence? Et où est-ce qu'il va? Ça va vraiment permettre de comprendre les priorités de la boîte. Qu'est-ce qui est important pour la boîte? Et ça va ensuite pouvoir influencer plein de choses dans le backlog. Mais il faut vraiment commencer par là.
Donc ça, tu comprends vraiment, t'analyses le produit. En tout cas, même si t'arrives dans une, enfin, si tu passes des entretiens dans une boîte que tu connais pas, c'est vraiment comprendre comment la boîte gagne de l'argent, d'où l'argent vient, quel est le parcours de l'argent, quoi, jusqu'au produit.
Exactement.
Okay,
exactement.
Hyper clair. Tips 1.
Parce qu'en fait, ça va, toutes les interactions qu'ensuite le PM va avoir avec la plupart des autres fonctions vont toujours, évidemment, être d'une façon ou d'une autre liées à ça. Et donc, il faut absolument, toi, en tant que PM, que tu comprennes tout ça. Et ça, c'est extrêmement important. Ça peut être de comprendre le business model aussi, si c'est une nouvelle industrie, de comprendre ne serait-ce que le business model, comment il fonctionne. Dans ce mode-là, je dirais que ta prio en tant que PM, et c'est la deuxième recommandation, là, c'est pas ni de parler, ni de sortir des features, ni juste de parler à des clients. Ta prio en tant que PM, c'est de faire grandir ton entreprise. Et donc, au quotidien, je pense qu'il est important pour les PM de prendre un pas de recul et de se demander comment est-ce que tu contribues à faire grandir ton entreprise. Et là encore, ça oblige à sortir de « qu'est-ce que je sors demain dans mon backlog ?» qui évidemment est très important dans la culture et le quotidien d'un PM. Mais comment je prends ce pas de recul ? Comment je demande aujourd'hui à mon manager, mon CEO, de m'aider à bien comprendre qu'est-ce qui peut faire grandir l'entreprise dans les 6, 12, 18 prochains mois ? Alors pour ceux qui auront suivi tout ce que j'ai dit en épisode en partie 2, bah ils auront normalement une bonne compréhension de ce qui va y parvenir, mais c'est pas toujours vrai dans les entreprises. Et donc ça, il faut être capable de le récupérer. Je pense que cette connaissance-là, elle est nécessaire pour permettre de décupler l'impact d'un PM et de plus le positionner comme une personne qui est là en train de délivrer des features avec une équipe dans un garage, mais une personne qui est vraiment le business leader dans l'entreprise, qui va pouvoir driver le succès et la croissance de l'entreprise. Et donc le troisième élément qui est pour moi très lié à tout ça, comment tous les jours, on peut se poser la question de là où on peut avoir le maximum d'impact. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui que je suis globalement le seul à pouvoir faire ou à exécuter de la meilleure façon? Où est-ce que j'apporte le plus de valeur ajoutée? je pense qu'il est nécessaire de choisir dans son quotidien, parmi toutes les tâches qu'on a, celles qui sont les plus importantes. C'est comme une préparation de backlog pour l'équipe engineering, mais pour soi-même. Et on ne le fait pas toujours assez bien de se dire, mais quand je regarde moi-même mon backlog et mes propres niveaux de confiance, mes propres niveaux d'impact, où est-ce que je dois mettre mon impact ? Être capable de faire ça, c'est extrêmement important. Et ça doit permettre d'ailleurs de se poser des questions sur comment je peux faire diminuer le temps sur lequel je pense que je ne suis pas le meilleur ou je pense que quelqu'un d'autre est meilleur. Et donc ça, c'est un élément qui est clé. Chez Botify, typiquement, on aide ça parce que dans chaque équipe, on va encourager les équipes à discuter de leurs forces et de leurs faiblesses. Quand on reprend le trio tout à l'heure, un product manager, un product designer, un tech lead, tous les product managers n'arrivent pas en étant des superstars sur la discovery. Ou inversement, tous les designers n'arrivent pas en étant des superstars sur la discovery. Comment on met des personnes qui ont des compétences qui se combinent ensemble dans une même équipe ? On leur permet d'en partager ça, de vraiment se mettre d'accord sur nous, dans notre équipe, voilà nos forces, nos faiblesses. Et ensemble, on travaille sur nos rôles et responsabilités au sein de cette équipe-là pour clairement se répartir le terrain et clairement maximiser notre performance en tant qu'équipe. Faire ça de façon consciente, ça augmente vraiment les capacités de l'équipe.
Ça, tu leur demandes à tes équipes de faire ce travail, je ne sais pas, annuellement par exemple, une espèce de revue des compétences par équipe ?
Alors, annuellement, je sais pas, on va le faire principalement quand il y a des nouveaux entrants importants dans l'équipe, parce que c'est souvent là où ça va créer du changement. Donc, okay. Et ça, on le fait vraiment de façon assez forte pour permettre à chacun de comprendre quel va être mon rôle dans cette équipe, concrètement. Et oui, de façon générale, le product designer, on considère qu'il doit faire tout ça dans un job. Mais dans cette équipe-là, eh bien, en fait, tu devrais être plus fort sur telle ou telle chose pour compenser telle autre personne ou pour aider telle autre personne. Et ça, c'est valable dans l'ensemble de l'année. C'est que c'est un commitment qu'on se fait en tant qu'équipe. Et puis ensuite, ça peut éventuellement évoluer au cours du temps, en fonction des besoins.
Qu'est-ce qui sort de là ? Ça veut dire que vous avez des gens, des membres de l'équipe qui vont suivre des formations, par exemple, s'auto-former suite à ça, quand les lacunes sont identifiées ?
Alors souvent, ce qu'on va essayer de faire plutôt, c'est de favoriser l'échange avec des personnes existantes quand on a déjà les compétences en interne. Et donc, ça va être le côté de mettre des personnes ensemble qui n'ont pas les mêmes habitudes. Donc typiquement, quand on fait des interviews utilisateurs, je les fais toujours, autant que faire se peut, entre un PM et un designer. Et je vais mélanger les personnes. Le but étant de se dire, j'ai toujours quelqu'un qui va être plus fort dans ce type d'exercice, quelqu'un qui va être moins fort et qui va pouvoir apprendre du coup de la personne qui sait mieux le faire, pour qu'à terme, on puisse changer ça.
Très bien, merci beaucoup pour ces trois points, Christophe. Est-ce que tu pourrais nous faire peut-être une petite synthèse très rapide de ces trois points pour qu'on les ait en tête ?
Très clair. Eh bien, pour moi, le PM peut et doit se présenter comme un business leader. Ta prio, en arrivant en tant que PM, c'est de comprendre comment le business fonctionne. Suis l'argent, d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il va. Ta prio en tant que PM, c'est pas forcément immédiatement de sortir des features, ni même de parler à des clients, c'est de comprendre comment tu vas faire grandir ton entreprise. Prends un pas de recul, demande-toi comment tu y contribues au quotidien et assure-toi que tu as une compréhension claire des next steps pour ton entreprise. Et au quotidien, réfléchis à ton propre backlog, comment tu maximises ton propre impact en tant que PM, comment tu priorises ton propre backlog de travail et comment tu peux travailler en équipe pour t'assurer que ce que tu fais au quotidien, c'est bien les choses sur lesquelles toi, tu es le plus important et le seul presque à pouvoir le faire versus les choses que tu penses que d'autres personnes dans l'équipe peuvent faire ou devraient faire. Et donc, comment vous travaillez ensemble pour définir ces rôles et responsabilités et du coup, maximiser l'impact de toute l'équipe.
Merci beaucoup Christophe pour cette partie, super conseil à appliquer. Je te propose qu'on passe à la dernière partie de cet épisode qui s'appelle les questions flash. Principe simple, je te pose 4 questions, tu me réponds vraiment le plus rapidement possible. Est-ce que t'es prêt ?
Allez, c'est parti, essayons.
Quel est ton pire échec en tant que product leader ?
Ah, mon pire échec, ça a été de développer un produit pendant au moins 12 mois et on l'a jamais utilisé.
C'était chez qui ça ?
Alors, je ne vais pas citer de nom, mais le point quand même que j'ai retenu de cette expérience, c'est qu'il ne faut pas sortir des produits après aussi longtemps. Évidemment, il faut itérer. On avait des super idées et notre idée, elle était peut-être géniale, sauf qu'en fait, elle n'était pas réalisable dans un temps normal et donc ça ne marche pas. Et donc, il faut vraiment en permanence revenir à la vision est importante et je continue de dire aux équipes, réfléchissez à la vision à long terme, mais qu'est-ce que ça veut dire dans les 3-6 mois qui viennent ? Comment on itère vers cette vision de façon pragmatique et impactante ?
Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien ?
Alors, un point qui est super important, c'est de poser des questions. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Être vulnérable, simplement en demandant de l'aide, c'est super important. Donc, je pense qu'être capable d'avoir un réseau pour s'entourer de personnes qui font le même genre de métier dans d'autres entreprises, par exemple, c'est super important pour faire ça. C'est quelque chose que j'ai fait, moi, en arrivant aux US. J'ai eu la chance de découvrir un réseau créé par Phil Terry, qui est une personne vraiment très importante aux US, qui a développé toute une communauté de product leaders et de rencontrer plein d'autres CPO dans d'autres organisations. Et un, de me rendre compte que tout le monde a les mêmes problèmes, et ça fait du bien de comprendre qu'on n'est pas les seuls finalement avec ces problèmes-là, mais deux, de pouvoir aussi leur poser des questions et leur dire, bah en fait, nous, on ne sait pas trop faire ça, on ne sait pas comment bien gérer ce problème-là, et d'avoir du feedback d'autres personnes. Donc ça, vraiment, j'encourage tout le monde à faire ça. Si tu peux le faire dans ton organisation, c'est génial. Si tu ne peux pas, il faut aller trouver à l'extérieur des gens. Plus tu peux poser de questions et demander de l'aide, plus tu vas grandir.
Quel conseil donnes-tu à tes product managers pour progresser ?
Sors la tête de l'eau. Il faut passer au macro. Il faut vraiment regarder ce qui se passe ailleurs. Les features, c'est qu'un élément du succès de la boîte. Il faut vraiment comprendre à quoi ça sert et pourquoi.
Et pour finir, quelle est ta question favorite à poser en entretien ?
Alors, en entretien, j'oublie un peu les questions désormais. J'ai vu trop de candidats qui étaient tellement bien préparés aux questions, qui savaient me répondre mais parfaitement à tout ce que je pouvais leur demander. Ils ont peut-être trop écouté ton podcast. Et du coup, ils savent répondre à tout. In fine, aujourd'hui, ma question favorite, ça va être de leur donner un cas d'utilisation. Et donc, je vais les faire travailler une demi-heure sur un cas et je vais voir comment ils réfléchissent, les questions qu'ils se posent. Et c'est ça qui va faire toute la différence.
Tu leur poses des questions dans le cas quand même, j'espère.
Je leur pose des questions dans le cas, évidemment.
Et t'en as pas une favorite dans le cas à poser ?
J'essaie de pas la poser, mais en fait, ce que j'aimerais bien que les candidats se posent comme question eux-mêmes, c'est pourquoi. Parce que mon cas, volontairement, il les incite à réfléchir et je vois des candidats qui vont sauter sur l'exécution et qui vont se dire « Ok, super, on y va, on exécute. » Et d'autres qui vont prendre le pas de recul dont j'ai parlé dans tout l'épisode, qui est de se dire « Mais au fait, pourquoi on veut faire ça ? À quoi ça sert ? C'est quoi l'impact ?» Et ça, en fait, beaucoup de candidats même le font pas. Tu vois. Donc, ça va être un des trucs que je vais essayer de voir.
Merci beaucoup Christophe, c'était vraiment cool de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi. Franchement, moi j'ai appris plein de trucs, c'est trop bien. J'ai trop hâte de pouvoir mettre tout ça sur papier pour que les gens puissent se poser dessus. N'hésitez pas à revenir sur le podcast, à le réécouter, il y a beaucoup de matière là et je suis sûr que ça pourrait aider plein d'équipes. Merci beaucoup Christophe d'avoir pris ce temps, d'avoir dédié un petit peu de temps de ton building à New York et j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler très vite.
Merci beaucoup, c'était un grand plaisir.
Trop cool, salut.
Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu.
I have everything here.
Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
Oh, yes, yes.
Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clé de Voûte pour le rendre utile à ton quotidien.
Darling, this trip's an inspiration.
Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite.
I'm so happy.